Vous écoutez, on lit pour vous.
L'embryon pour étudier les origines de l'humanité. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 4 mai 2025 dans la presse. Et si, pour retracer les origines de l'humanité, il suffisait d'étudier les embryons? C'est l'une des pistes avancées par la scientifique britannique Alice Roberts, qui est à Montréal ce dimanche pour parler du miracle de l'évolution et de l'humanité. Alice Roberts était enceinte de son deuxième enfant quand elle a eu une épiphanie. Les livres d'accompagnement de la grossesse ne parlent presque pas des deux premiers mois. Or, c'est le moment où il y a la transition la plus importante, dit-elle, du Royaume-Uni. On passe de quelques cellules à un embryon qu'on reconnaît comme humain. Cet instant lui a inspiré une réflexion philosophique qui l'a menée à élargir son expertise déjà importante de spécialiste de l'archéologie des ossements. Je me suis toujours intéressé à ce que les sépultures pouvaient nous dire de la société et des relations humaines du passé. On peut remonter des siècles, voire des millénaires, un véritable voyage dans le temps. Mais avec cette réflexion sur les liens entre l'embryologie et l'évolution, on revient des centaines de millions d'années, voire des milliards d'années avant notre ère. Le développement initial de l'embryon implique des processus chimiques qui nous relient à tous les organismes de la planète. On peut remonter à notre ancêtre commun présumé il y a plus de 4 milliards d'années. Nous avons, dans nos cellules, des processus biochimiques semblables à ceux des plantes. Ensuite, des mutations génétiques ont mené aux animaux, aux mammifères, aux singes. L'embryon, en passant de quelques cellules à un petit bébé, reproduit en quelque sorte toute l'évolution. Un voyage de 4 milliards d'années en 9 mois, en quelque sorte. Cette réalisation est au cœur d'une nouvelle discipline, la biologie évolutive du développement ou Evo-Devo. L'idée est d'étudier l'évolution en comparant l'anatomie et la physiologie de différentes espèces plutôt que les fossiles, dit la docteure Roberts. On retrouve nos lointains ancêtres en nous, c'est renversant. Dans sa conférence, la docteure Roberts ajoute une explication de l'évolution de l'univers. Humanisme. L'idée d'un lien entre l'humain et les plantes peut rappeler le panthéisme, soit l'idée que la nature est divine, ou encore les spiritualités autochtones. Ou encore, on peut conclure que l'infiniment petit, la cellule, peut insuffler un sentiment mystique semblable à celui que certains ressentent en contemplant la voûte étoilée la nuit. C'est merveilleux de penser à l'origine de la conscience humaine, de s'émerveiller devant la pensée qui nous a permis de comprendre tout ça, dit la docteure Roberts. Elle fait un lien avec sa foi humaniste. Il s'agit d'une foi centrée sur l'être humain, qui a été popularisée par des églises protestantes britanniques et américaines, ayant conclu que Dieu n'existait pas nécessairement. Elle dérive de philosophie athée de la Révolution française et du sociologue Auguste Comte. L'humanisme n'est pas seulement une approche rationnelle, mais amène aussi l'idée que l'humain se réalise en interagissant avec le monde naturel, dit la scientifique de 51 ans. C'est une éthique non seulement humaine, mais qui concerne tout le vivant. De la médecine au végétariat. Fille d'un ingénieur et d'une enseignante, Alice Roberts a étudié la médecine. « J'ai été fascinée par l'anatomie comparée », dit la docteure Roberts. Sa thèse portait sur les pathologies de l'épaule chez l'humain et le singe et elle a enseigné la paléopathologie dans différentes universités, dirigeant entre 2009 et 2016 le département d'anatomie d'une école de médecine galloise. Elle a été recommandée, en 2001, comme experte des eaux pour une émission archéologique. Sa performance a intéressé la BBC qui, à partir de 2009, l'a régulièrement mise au centre de documentaires scientifiques sur l'évolution, les migrations humaines, les dinosaures, les Celtes et d'autres sujets archéologiques. Néandertalien. Quelle est la découverte qui l'a le plus marqué dans son travail? Personnellement, je n'ai rien découvert qui a fait la une de Nature. Mais j'ai été présente à plusieurs avancées. Celle qui m'a le plus soufflé est l'idée que les Néandertaliens et Homo sapiens ont formé des familles ensemble à plusieurs reprises au fil des millénaires, à différents endroits. C'est une rencontre qui était très difficile à imaginer. Comment Homo sapiens a-t-il compris l'altérité radicale de l'homme de Néandertal beaucoup moins évolué? Je pense qu'on ne le saura probablement jamais. Quoique, si on m'avait dit il y a 20 ans qu'on pourrait faire le génome de gens morts depuis des millénaires, j'aurais pensé que c'était une utopie. Cela dit, il ne faut pas idéaliser la rencontre entre Homo sapiens et Néandertal. Il se peut que ça se soit fait dans la violence. La crypte. La Dr. Roberts commence sa tournée canadienne à Montréal alors que son dernier livre, The Crypt, a été publié en Angleterre. Il s'agit d'une série d'ostéobiographies de gens qui sont morts depuis des centaines d'années, basées sur ce qu'on peut comprendre de leurs ossements. Le livre est la suite de Buried, qui portait sur les rites funéraires. Les ossements nous disent des choses précieuses à propos d'époques où il n'y avait pas d'écriture, ou alors où seulement les riches et les puissants écrivaient, dit Mme Roberts. Par exemple, on a appris que, dans l'Angleterre de l'âge du bronze, c'étaient les hommes et non les femmes qui changeaient de village quand ils se mariaient. Ça veut probablement dire que les femmes héritaient plutôt que les hommes. Les Romains, quand ils ont envahi l'Angleterre, ont justement évoqué de puissantes reines celtes, Boadicée et Cartimandua. Une autre conclusion de l'ostéobiographie est que le sucre a eu un effet bœuf sur les sociétés européennes. Au Moyen Âge, les gens avaient une bonne dentition, mais à partir du XVIe siècle, on commence à avoir des dents complètement pourries au début de l'âge adulte. C'est à cause du sucre. Cancer et obésité. Que diront les ostéobiographes du futur de nos ossements? Ils vont constater l'augmentation vertigineuse de l'espérance de vie au XXe siècle, avec la médecine et la lutte contre les infections infantiles. Avant, il n'était pas rare que la moitié des enfants d'une femme n'atteignent pas l'âge adulte. Maintenant, ça arrive très peu souvent, même dans les pays en voie de développement. Corollaire de ce progrès, les ossements d'aujourd'hui révéleront aussi aux chercheurs du futur l'augmentation de la fréquence du cancer, maladie liée au vieillissement. Et en voyant la quantité de gens qui souffrent d'arthrose du genou, ils vont pouvoir déduire qu'il y avait beaucoup plus d'obésité qu'avant. En savoir plus, source Smithsonian. 3,5 milliards d'années. Âge de la plus vieille bactérie connue retrouvée en Australie. 500 millions d'années. Dernier ancêtre commun entre le poisson et l'humain. Entre 5 et 7 millions d'années. Dernier ancêtre commun de l'humain et du chimpanzé. 430 000 ans. Apparition de l'homme de Néandertal. 40 000 ans. Disparition de l'homme de Néandertal. Entre 350 000 et 260 000 ans, apparition d'Homo sapiens. C'était « L'embryon pour étudier les origines de l'humanité », un texte de Mathieu Perrault, paru le 4 mai 2025 dans La Presse.
Des réponses fraîches sur la mauvaise haleine, un texte commandité paru le 8 mai 2025 dans La Presse. Qu'elle se manifeste au réveil, après les repas ou au milieu d'une conversation, la mauvaise haleine peut devenir une source d'inconfort au quotidien. Voici les réponses à quelques questions fréquentes à son sujet. 1. Qu'est-ce qui provoque la mauvaise haleine? Ce phénomène, appelé halitose en médecine, s'explique par la présence de bactéries dans la bouche qui, en décomposant les aliments, produisent des composés sulfurés volatiles à l'odeur désagréable. Il est également possible qu'un problème de santé chronique tel que la gingivite, la sécheresse buccale ou le reflux gastrique soit en cause. 2. Pourquoi certaines personnes ont-elles mauvaise haleine et d'autres non? Le niveau d'activité bactérienne varie d'un individu à l'autre en fonction de son alimentation, de son état de santé global et de son hygiène dentaire. Les personnes qui se brossent les dents régulièrement, qui utilisent la soie dentaire et qui s'hydratent bien minimisent généralement les mauvaises odeurs persistantes. 3. Pourquoi la mauvaise haleine est-elle pire le matin? La production de salive diminue durant le sommeil, ce qui procure aux bactéries un milieu propice à leur multiplication. Ronfler ou respirer par la bouche amplifie ce phénomène en asséchant davantage l'environnement buccal. Boire tout au long de la journée, ainsi qu'avant de se coucher, humidifie la bouche et aide à prévenir la mauvaise haleine du matin. 4. Quels sont les aliments qui affectent négativement l'haleine? L'ail et l'oignon contiennent eux-mêmes une forte concentration de composés sulfurés. C'est d'ailleurs ce qui irrite les yeux lorsqu'on les cuisine. Ces composés sont absorbés par le système sanguin avant d'être évacués par les poumons jusque dans la bouche, ce qui prolonge leur odeur bien après le repas. Les bactéries buccales raffolent également de certaines protéines des produits laitiers, comme la caséine, ce qui augmente leur niveau d'activité et la mauvaise haleine. De façon plus globale, une alimentation pauvre en glucides est susceptible d'accroître la production de cétones, des composés organiques présents dans le sang, qui émettent une odeur désagréable. Un régime à forte teneur en protéines peut, quant à lui, entraîner davantage de déchets azotés au parfum d'ammoniac. 5. Quels aliments aident à masquer l'odeur? La menthe dissimule la mauvaise haleine rapidement grâce au menthol, un aromate puissant et rafraîchissant. Certains fruits et légumes croquants, comme les pommes et le céleri, stimulent quant à eux la production de salive pour rincer la bouche naturellement. Le thé vert offre une autre solution. Il contient de la catéchine, un antioxydant reconnu pour ses propriétés antibactériennes bénéfiques contre la mauvaise haleine. 6. Dans quelle mesure les rince-bouches sont-ils efficaces contre la mauvaise haleine? Il existe deux grandes catégories de rince-bouches, les thérapeutiques et les cosmétiques. Les seconds ne parfument l'haleine que de façon temporaire, sans s'attaquer à la cause. Les rince-bouches thérapeutiques, pour leur part, contiennent des antiseptiques qui préviennent la formation de plaques dentaires et combattent activement les bactéries problématiques. Sans être une solution miraculeuse en soi, un rince-bouche thérapeutique complète bien le brossage et la soie dentaire. 7. Est-ce que le stress ou l'anxiété peuvent affecter l'haleine? Oui, le stress nuit à la production de salive et offre aux bactéries buccales un environnement sec où se reproduire. il y a moyen de contrer les effets du stress sur la mauvaise haleine en ayant recours à des techniques de relaxation, en respirant de manière contrôlée et en buvant une quantité suffisante de liquide. Mâcher de la gomme sans sucre est une autre façon simple et rapide de stimuler la salivation afin d'hydrater la bouche. 8. Quand faut-il consulter pour un problème de mauvaise haleine chronique? Si la mauvaise haleine persiste malgré de bonnes habitudes, il est prudent d'en parler à son dentiste. Il est possible que l'odeur soit le symptôme d'un problème dentaire ou de gencive, surtout si elle est accompagnée d'un goût désagréable ou de sécheresse buccale. Dans de rares cas, une maladie sous-jacente pourrait également être en cause et nécessiter une consultation auprès d'un médecin. C'était Des réponses fraîches sur la mauvaise haleine, un texte commandité paru le 8 mai 2025 dans la presse.
Québec prévoit que les médecins vont lui coûter moins cher cette année. Un texte d'Isabelle Porteur paru le 9 avril 2025 dans Le Devoir. En pleine négociation avec les médecins, le gouvernement du Québec a budgété moins d'argent pour les payer cette année qu'en 2024. Or, advenant une entente, une hausse de la rémunération risque de creuser le déficit. Le ministère a prévu 8,134 milliards de dollars pour rémunérer les quelques 22 000 médecins québécois en 2025-2026. Il s'agit d'une baisse de 35 millions par rapport à l'enveloppe de 8,169 milliards de dollars prévue en 2024. Cela reflète la meilleure prévision disponible, a indiqué le ministère en réponse aux questions du Devoir. Il souligne que les accords cadres avec les fédérations médicales sont actuellement en négociation. Or, les médecins exigent un rattrapage qui ferait gonfler l'enveloppe destinée à leur rémunération s'ils ont gain de cause. Comment, avec une population croissante et vieillissante, peut-on croire que les coûts des soins directs à la population pourront diminuer? Fait valoir la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, FMOQ. La FMOQ n'a pas chiffré ses demandes publiquement, mais son président a déjà avancé qu'il y avait une iniquité entre les médecins de famille et leurs collègues spécialistes en termes de reconnaissance et de rémunération. Les médecins spécialistes réclament, quant à eux, un rattrapage important cette fois-ci. On s'attend à être traité de façon équitable par rapport à la manière dont les autres employés du secteur de la santé ont été traités, a indiqué au Devoir le président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, FMSQ, Vincent Oliva, à la fin janvier. Peu plausible. À cause du déficit qui s'élève à 13,6 milliards de dollars, le gouvernement a budgété une hausse des dépenses en santé de seulement 3 % cette année. Or, Santé Québec indique déjà que la subvention ne couvre pas l'entièreté des besoins anticipés. Selon la presse et Radio-Canada, le déficit anticipé s'élève à 1,4 milliard de dollars sans compter le manque à gagner prévu dans les infrastructures. Dans ce contexte, les prévisions de Québec pour la rémunération des médecins laissent perplexe le professeur Damien Contandriopoulos, spécialiste des questions de rémunération à l'Université Victoria en Colombie-Britannique. Soit ils ont écrit des chiffres qui sont peu plausibles et ils le savent parce qu'ils sont en négociation avec les fédérations, ou bien il y a vraiment quelqu'un, quelque part, qui pense qu'on peut diminuer le volume de services médicaux qui vont être offerts. Et ça, ça serait une très mauvaise idée. Puisque les médecins sont payés essentiellement à l'acte, la baisse suggère que les actuaires du gouvernement s'attendent à ce que moins d'actes soient facturés cette année. Scandaleux. Pour l'ancien ministre Gaétan Barrette, qui a dirigé la FMSQ avant de faire de la politique, cette baisse de 35 millions de dollars provient du fait qu'ils font moins d'actes, donc facturent de moins en moins, ce qui est scandaleux, selon lui. La majorité des médecins spécialistes, dit-il, facturent moins, faute d'accès à des équipements et à des installations suffisantes, fait-il valoir. On a un système en mode de rationnement volontaire. Ça reflète la tendance des dernières années, dit-il. Ce problème avait déjà été documenté par la vérificatrice générale dans un rapport en 2021. M. Barrett ajoute toutefois qu'advenant une nouvelle entente cette année, le coût de l'enveloppe va nécessairement augmenter. C'était « Québec prévoit que les médecins vont lui coûter moins cher cette année », un texte d'Isabelle Porter paru le 9 avril 2025 dans Le Devoir.
Un pape et son péché. Un texte de Rima El-Khoury, paru le 22 avril 2025 dans La Presse. Le pape François est mort à une époque où la mondialisation de l'indifférence, qu'il a toujours dénoncée, est bien vivante. Dans son dernier discours pascal, prononcé la veille de sa mort, c'est un pape à bout de souffle qui a tenu à défendre ses valeurs d'empathie et d'humanité en exhortant les dirigeants à ne pas céder à la logique de la peur qui enferme. Que de mépris se nourrit parfois envers les plus faibles, les marginalisés, les migrants, a-t-il lancé en invitant ses fidèles à abattre les barrières qui créent la division. Les dernières paroles du pape semblaient être une réplique au vice-président américain J.D. Vance, nouveau fidèle, pas si fidèle selon le Vatican, que le souverain pontife a brièvement rencontré quelques instants avant son dernier bain de foule. Même si Vance s'est converti au catholicisme en 2019, le moins que l'on puisse dire, c'est que les deux hommes n'en faisaient pas la même interprétation. Loin de s'être converti au christianisme de l'accueil et de l'empathie défendu par le pape François, Vance a plus d'affinité avec une certaine droite conservatrice religieuse qui, comme Elon Musk, se méfie de l'empathie comme de la peste. Par un effroyable retournement de sens, certains chrétiens américains, beaucoup moins catholiques que le pape, considèrent même qu'il s'agit là d'un péché. Si on peut certes reprocher au pape François de ne pas avoir été exactement à l'avant-garde en matière de défense des droits reproductifs des femmes ou des minorités sexuelles, on ne peut que saluer son refus obstiné de se taire devant les politiques déshumanisantes de fermeture de frontières qui ont gagné en popularité ces dernières années. Du début de son pontificat jusqu'à son dernier souffle, le pape ne s'est jamais gêné pour critiquer haut et fort les politiques anti-migrants. Dimanche, en faisant un dernier plaidoyer en faveur des migrants, il bouclait la boucle de plus en plus effiloché de l'empathie. Lui qui, pour son premier voyage officiel, en juillet 2013, avait choisi de se rendre dans l'île italienne de Lampedusa, devenue île refuge de milliers d'exilés en quête d'espoir. Dans une Méditerranée transformée en cimetière, le pape avait jeté des fleurs à la mer en fustigeant la culture du bien-être individuel qui nous rend insensibles aux cris des autres et nous fait vivre dans des bulles de savon qui sont belles, mais ne sont rien. Ces bulles sont l'illusion du futile, du provisoire, illusion qui porte à l'indifférence envers les autres et même à la mondialisation de l'indifférence. En 2015, quelques jours après que le destin tragique d'Alan Kurdi enfant syrien, échoué sur une plage turque, a secoué notre indifférence, le pape avait invité chaque paroisse d'Europe à accueillir une famille de réfugiés. Même dans un Québec où les églises se vident, l'invitation avait donné lieu à un fabuleux vent de solidarité, rassemblant des gens de différentes confessions autour d'un projet d'accueil commun. Le message papal s'était notamment rendu de la place Saint-Pierre de Rome au village québécois de Saint-Ubald. Le diacre du village, Gilles Pellerin, m'avait raconté que c'était les paroles du pape qui lui avaient donné l'idée de mobiliser sa communauté pour parrainer une famille de réfugiés syriens. Tout au long de son pontificat, à mesure que les politiques anti-migrants se durcissaient en Occident et que la solidarité internationale se ramollissait, le pape François n'a pas édulcoré son discours pour s'adapter à l'ère du temps populiste. Durant la campagne électorale américaine de 2016, il avait déjà rudement critiqué la promesse du candidat Trump d'ériger un mur le long de la frontière mexicaine. Une personne qui veut construire des murs et non des ponts n'est pas chrétienne, avait-il déclaré. Après la réélection de Donald Trump, le jésuite argentin a vertement critiqué les entourloupettes théologiques utilisées par J.D. Vance pour justifier les expulsions de masse mises en œuvre par l'administration Trump. Expulser des personnes qui, dans de nombreux cas, ont quitté leur pays pour des raisons d'extrême pauvreté, d'insécurité, d'exploitation, de persécution ou de grave détérioration de l'environnement, porte atteinte à leur dignité, avait-il rappelé, dans une rare lettre envoyée aux évêques américains le 10 février 2025. Ce qui est construit sur la base de la force et non sur la vérité concernant l'égale dignité de chaque être humain commence mal et finira mal, avait-il averti. Certains y verront les confessions d'un pécheur. J'y lis des paroles tristement prémonitoires. C'était « Un pape et son péché », un texte de Rima El-Khoury, paru le 22 avril 2025 dans La Presse.